Dans les textes de Machiavel, la question de la guerre est souvent l'horizon même de la question de la politique. La politique et la guerre sont en permanence mêlées dans ces textes. Elles sont même souvent indissociables. Et cela dans les relations que les États établissent entre eux, mais aussi à l'intérieur même des États, des provinces et des cités. Nous allons essayer de voir comment la polémique de Machiavel contre les armes mercenaires et auxiliaires et en faveur de ce qu'il nomme les armi proprie, hein, les armes propres, non pas au sens où elles ne seraient pas sales, mais au sens où elles appartiennent en propre à la République ou au prince, est un des axes structurants de l'ensemble de l'œuvre, un des éléments qui donne sens à ces textes. Pour Machiavel, l'erreur consistant à ne pas avoir compris l'importance de ces armes propres et ne pas avoir compris non plus le rôle déterminant de l'infanterie, pour lui, cela est un des péchés des princes de l'époque des guerres d'Italie. Et dans l'écriture de ces textes, on ressent un effort constant pour faire comprendre comment on pourrait racheter, redimere en italien, redimer dans le français classique, hein, racheter, redimer ses péchés. Si l'Italie, nous dit Machiavel, a été parcourue par Charles VIII, pillée par Louis XII, forcée par Ferdinand et outragée par les Suisses, il dit cela dans le chapitre 12 du Prince, si les armées italiennes ont toujours fait mauvaise figure face aux armées étrangères, c'est bien à cause d'erreurs qui sont à la fois politiques et militaires, erreurs commises par les princes italiens. Ces erreurs, Machiavel les nomme des péchés, peccati. Dans ce même chapitre 12, qui ouvre dans le Prince la série des chapitres consacrés à la façon de faire la guerre, Machiavel commente la façon dont le roi de France, Charles VIII, a traversé l'Italie pour s'emparer de Naples à l'automne 1494, sans rencontrer de résistance. Je le cite. « Et celui qui disait que nos péchés en étaient cause disait la vérité. Mais ce n'était pas du tout ce qu'il croyait, mais ce que j'ai raconté. Et puisque c'était là péché de prince, ils en ont souffert les peines, eux aussi. » Il s'agit là d'une claire allusion au sermon du prieur du couvent dominicain de Saint-Marc, Girolamo Savonarola, Jérôme Savonarole, qui, en novembre et décembre 1494, montait en chaire presque tous les jours pour expliquer que la guerre était causée par les péchés des Florentins et des Italiens. Mais au-delà de ce clin d'œil et du jeu avec la terminologie religieuse, il y a un diagnostic politique. Pour Machiavel, les péchés des princes italiens consistent à avoir confié la conduite de la guerre à des condottiers mercenaires qui, eux-mêmes, n'avaient pas mis en place une forte infanterie. Il ne faut donc pas voir dans les défaites italiennes un effet de la fortune, du hasard, du sort, mais bien le résultat des péchés commis dans la conduite des affaires militaires. Dans le chapitre 24 du Prince, où Machiavel entend expliquer pourquoi les princes d'Italie perdirent leurs états, il souligne que ces derniers ont tort d'accuser la fortuna, hein, le sort, la fortune, le hasard. Et il dit qu'ils devraient accuser en fait ce qu'ils nomment leur ignavia. Et l'ignavia, ce n'est rien d'autre que le péché capital de la paresse. Ajoutons que dans son sens latin, ce terme renvoie à l'idée de la lâcheté, qui est en quelque sorte le pire péché que puisse commettre un militaire. La raison de l'échec des princes italiens, c'est donc bien, je cite Machiavel, un défaut commun quant aux armes, pour les raisons que ci-dessus on a longuement examinées. On ne s'étonne pas dès lors que dans l'exhortation à libérer l'Italie des barbares du dernier chapitre du Prince, le chapitre 26, Machiavel appelle de ses voeux un redemptore, un rédempteur, un noble, un homme au fond capable de racheter les péchés des princes. Et quelle est la tâche de ce rédempteur de l'Italie? Un prince, donc, doit s'appuyer sur des armes propres, dont la définition est donnée dans le chapitre 13 du Prince. Les armes propres, écrit Machiavel, sont celles qui sont composées de tes sujets, ou de tes citoyens, ou de tes créatures. Toutes les autres sont soit mercenaires, soit auxiliaires. La critique des armes mercenaires et auxiliaires est menée avec vigueur, non sans ironie, avec des formules qui font mouche et ne laissent aucune place à la nuance. Ainsi, la formule du chapitre 12 à propos des condottiers italiens suffirait à elle seule à montrer que le sarcasme sert d'arme. Je cite Machiavel. Et la fin de leur vertu fut que l'Italie a été parcourue par Charles, pillée par Louis, forcée par Ferdinand et outragée par les Suisses. Singulière vertu donc que celle de ces capitaines mercenaires, qui sont d'ailleurs de bien étranges soldats. Ils veulent bien être tes soldats tant que tu ne fais pas la guerre, mais dès que la guerre vient, ils ne veulent que fuir ou s'en aller. Quant aux troupes auxiliaires, Machiavel prévient que celui qui veut ne pas pouvoir vaincre, eh bien qu'il se prévale de telles armes. Dans le chapitre 26 du Prince, Machiavel va montrer que la tâche de celui qui voudra racheter les péchés des princes et se faire donc le rédempteur de l'Italie est essentiellement militaire. Il devra savoir mettre fin aux défaites des armées italiennes en se pourvoyant, et je cite à nouveau Machiavel, d'armes propres, car on ne peut avoir de plus fidèles, ni de plus vrais, ni de meilleurs soldats. Et il faudra également mettre en ordre une infanterie qui résiste aux cavaliers et n'ait pas peur des fantassins. Jusqu'à maintenant, explique Machiavel, personne n'a su mener à bien la résurrection de l'Italie parce que personne n'a su y introduire les ordres, au sens des fonctionnements, des mises en place, des ordonnancements, des formes militaires qui auraient permis de faire ressurgir la vertu militaire de l'Italie qui est désormais éteinte, spenta, dans le texte italien. Ces ordres à introduire, la nécessaire entreprise de renouvellement à mener, concerne, dans la conjoncture présente, dans cette qualité d'étang dont nous avons déjà parlé, les armes et la façon de mener la guerre. La forme à donner à la matière italienne va donc se préciser dans la nécessité du moment par la description d'une forme à donner à une infanterie italienne. Parce que pour Machiavel, il y a bien une matière italienne, une sorte de vertu militaire à l'état potentiel dans les membres, ainsi que l'indique la formulation du paragraphe 16 de ce chapitre. Ici, il y a grande vertu dans les membres, dès lors qu'elle ne manquerait pas dans les têtes. Dans la phrase machiavélienne, l'utilisation de l'indicatif présent, qui est virtu grande, ici il y a grande vertu, insiste sur le lien nécessaire entre la vertu des capi, les têtes, comme cela a été dit dans la citation précédente, mais évidemment ça désigne aussi les chefs militaires. Donc un lien nécessaire entre cette vertu des chefs, des têtes, et celle des membres. Mais ce lien nécessaire est comme remis en question par l'utilisation du subjonctif imparfait à valeur conditionnelle de la subordonnée. « Quando la non mancassi », si elle ne manquait pas. L'ambiguïté naît de cette tournure grammaticale et cette ambiguïté semble bien indiquer que la vertu des membres est une potentialité dont la réalisation dépend de l'introduction ou non des ordres nécessaires. La preuve de cette existence est donnée par la reprise d'un cliché déjà formé au moment où Machiavel écrit, et qui consiste à faire allusion aux victoires italiennes dès qu'il s'agit non de batailles rangées, mais de duels et d'échauffourées. Cette allusion renvoie à une rencontre sur le champ d'honneur que l'on appelle le défi de Barletta, défi qui vit combattre le 13 février 1503 13 chevaliers français contre 13 chevaliers italiens, d'ailleurs combattaient pour au service du roi d'Espagne. Et là, les chevaliers italiens l'avaient emporté, précisément parce que la vertu des membres existe encore. Mais à elle seule, cette vertu des hommes ne saurait suffire. En fait foi, la liste des défaites que les armées toutes italiennes, composées uniquement de soldats italiens, n'ont cessé d'avoir dès lors qu'elles étaient opposées à des armées étrangères. Il faut donc que cette vertu italique, cette vertu qui permettra de se défendre face aux armées étrangères, naisse de la fusion de la capacité guerrière des soldats avec des ordres militaires nouveaux. Et cela, Machiavel l'appelle l'ordre tiers de l'infanterie, une infanterie donc qui serait capable, grâce à ses ordres, à ses mises en place, capable donc de s'opposer aux Suisses et aux Espagnols. Pour mettre en lumière les défauts des infanteries suisses et espagnoles que l'ordre tiers qu'il propose devra dépasser, eh bien Machiavel énonce une opinion commune et la corrobore par un exemple, la bataille de Ravenne. Cette bataille, selon lui, illustre les défauts de l'ordre suisse. Elle s'est déroulée le 11 avril 1512. Elle a vu la victoire des troupes françaises qui avaient des fantassins allemands à leur service. Les Français ont perdu leur capitaine, Gaston de Foix, au cours de la bataille. Et cette sanglante bataille, où il y eut plus de 10 000 morts, n'eut pas d'effet sur la suite de la guerre, car les Suisses recrutés par le pape chassèrent peu après les Français de Lombardie. Voici comment Machiavel présente l'affrontement entre les deux infanteries. Il commence par expliquer que c'est donc un exemple de la faiblesse de l'ordre suisse, qui est capable de s'opposer aux cavaliers, mais pas à des forces comme les Espagnols. Je cite le passage. « Et bien que d'expérience, on n'ait jamais vu entièrement semblable chose, on en a eu un avant-goût lors de la bataille de Ravenne, lorsque les infanteries espagnoles affrontèrent les bataillons allemands qui observent le même ordre que les Suisses. Et là, les Espagnols, grâce à l'agilité de leur corps et en s'aidant de leurs rondaches, des petits boucliers ronds, s'étaient glissés au milieu des pics, en dessous d'eux, et pouvaient les blesser en toute sécurité sans que les Allemands y pussent remédier. Et n'eût été la cavalerie qui les bouscula, ils les auraient tous exterminés. » On pourrait remarquer qu'aucun des témoignages directs, du moins parmi ceux qui nous sont parvenus, ne fait mention de cette quasi-extermination des fantassins allemands. On pourrait également remarquer, en prenant appui sur des passages de l'art de la guerre, que Ravenne montra aussi la capacité de l'infanterie espagnole à résister à la cavalerie française. Puisqu'il écrit dans l'art de la guerre que les Espagnols en rang serré se retirèrent en lieu sûr à propos de cette même bataille. Mais ce qui importe ici, c'est de mettre en évidence que Machiavel estime que pour la forme d'infanterie qu'il désire voir mettre en place, celle donc qui saura échapper aux deux défauts en étant capable de résister aux cavaliers et de ne pas avoir peur des fantassins, eh bien, il y a deux éléments qui sont déterminants, ce qu'il nomme le genre des armes, d'une part, et ce qu'il nomme la variation des ordres, d'autre part. quand on trouve ces expressions dans l'art de la guerre, elles sont développées et elles ont un sens militaire précis. Le porte-parole de Machiavel dans l'art de la guerre, Fabrizio Colonna, se charge d'expliquer ce qu'il entend par le genre des armes. Et il le fait lorsqu'un de ses interlocuteurs lui pose la question « Dites-moi comment vous armeriez vos soldats ?» Et voilà ce qu'il répond. « Je prendrai certaines des armes romaines et certaines des allemandes, et je voudrais que la moitié fût armée comme les Romains et l'autre moitié comme les Allemands. En effet, si sur 6000 fantassins, comme je vous le dirai bientôt, j'avais 3000 fantassins avec des boucliers à la romaine et 2000 piquiers et 1000 escopétiers à l'allemande, cela me suffirait, car je placerais les piquiers soit sur le front des bataillons, soit à l'endroit où je craindrais le plus les cavaliers. Quant à ceux qui ont un bouclier et une épée, je m'en servirai pour épauler les piquiers et gagner la bataille, comme je vous le montrerai. Et je crois bien qu'une infanterie ainsi ordonnée l'emporterait sur toute autre infanterie. » Donc voilà ce que signifie militairement l'expression « le genre des armes ». Quant à la variation des ordres, l'expression désigne dans l'art de la guerre la façon de disposer les troupes selon la qualité du site et la qualité et la quantité de l'ennemi et la façon de faire manœuvrer ces mêmes troupes sur le champ de bataille. La réponse au problème de l'heure consiste donc non seulement à se pourvoir d'armes propres, selon l'expression machiavélienne, provvedersi d'armes proprie, mais également à le faire en mettant sur pied cet ordre tiers dont les caractéristiques militaires, les ordres et les armes sont précisément évoqués, même si cette façon très resserrée dans le prince, mais l'explicitation viendra lors de l'écriture de l'art de la guerre. Voilà donc la façon dont le rédempteur de l'Italie pourra racheter les péchés des princes. La question des armes, fondamentale pour tout prince qui désire acquérir ou maintenir un État, prend une importance toute particulière lorsque l'Italie est esclave et outragée. Cette réflexion sur la guerre et les armes est fortement présente dans Le Prince et l'est également dans ses autres ouvrages, dans l'art de la guerre, comme nous venons de le voir, et ce qui paraît évident, mais aussi dans les discours et dans les histoires florentines. Elle repose sur une lecture de longue durée de l'histoire italienne et notamment sur l'analyse du rôle négatif joué par l'Église dans ce processus qui amena les Italiens à prendre à leur solde des étrangers. Elle naît également de la longue expérience des choses modernes de Machiavel, de sa propre expérience donc de diplomate et d'organisateur militaire. Nous aborderons ces points dans le prochain cours.